Radio Kapi.
Le journal, présenté par Lievin Bouinga.
Bonjour et bienvenue dans cette grande édition du journal. Au sommaire de cette édition, non-reprise des cours des enseignants grévistes, la première ministre s'implique. Judith Souminois les appelle à reprendre les crées. Elle s'est exprimée au cours d'un entretien avec la presse quinoise dans le cadre des 100 jours de son gouvernement. Et puis les regards sont tournés vers le Maniema où débutent les travaux sur les mines, l'énergie, les infrastructures. Ces assises sont organisées par le gouvernement provincial sur initiative du gouverneur de province. Vous suivez aussi ce bilan pas de moindre de l'opération s'affiche à Mujiwagoma. Tenez, plus de 250 présumés bandits à main armée arrêtés et au moins 200 armes déjà récupérées. Le maire de la ville, Faustin Kapens Kamand, est notre invité pour en parler. Encore une fois, bonjour, mais sachez d'abord qu'un accord sur les activités et les responsabilités contenues dans le plan harmonisé pour la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda et leur désengagement a été conclu samedi 12 octobre entre la RDC et le Rwanda. C'est ce que rapporte dimanche 13 octobre l'agence angolaise de presse. Cet accord est le résultat de la réunion ministérielle entre les deux pays qui a eu lieu samedi à Luanda en Angola et facilitée par le même pays, précise la dépêche de Angop. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
À cet effet, les partis ont mandaté les experts pour élaborer un plan détaillé de mise en œuvre du plan harmonisé dont les rapports devraient être analysés lors de la prochaine réunion ministérielle qui se tiendra à une date à convenir, ajoute la même source. Au cours de cette réunion, les ministres ont passé en revue les derniers événements survenus depuis leur dernière session ministérielle du 14 septembre. Ils ont en outre exhorté les partis au conflit à respecter les cessez-le-feu du 4 août dernier. Enfin, les ministres ont convenu de continuer à travailler sur les questions de sécurité en suspens contenues dans les projets d'accord de paix proposés par les facilitateurs. Le président angolais João Lourenço rapporte l'agence angolaise de presse.
L'actualité, c'est aussi ce message de la première ministre aux enseignants grévistes. Judith Souminois les appelle à faire preuve de patriotisme en reprenant les cours. Allusion faite aux provinces où certains syndicats ont durci leur mouvement de grève. Judith Souminois l'a dit jeudi au cours d'un entretien avec la presse quinoise dans le cadre des 100 jours de son gouvernement, totalisé le 19 septembre dernier depuis son investiture par l'Assemblée nationale en juin dernier. Devant la presse quinoise, la première ministre Judith Souminois a dressé le bilan de son gouvernement et a passé en revue les questions touchant à tous les secteurs de la RDC, notamment la sécurité avec la situation des personnes déplacées, l'éducation avec la grève des enseignants, ainsi que l'économie et la politique. On écoute Judith Souminois au micro d'Alain Irung.
Ce que je dis, c'est qu'il y a eu une commission paritaire sur laquelle le bon syndical et le bon gouvernemental s'est mis d'accord. On a bien indiqué la problématique que nous avions. On s'est mis d'accord sur un certain nombre de pas qu'on va faire d'un point de vue financier pour pouvoir déjà accomplir un certain nombre de paliers. On s'est mis d'accord sur ça. Donc si aujourd'hui, quand un accord a été pris, certains, parce que quand on dit au niveau des enseignants, c'est pas tous les enseignants.
Du moins une bonne partie.
Mais je pense qu'à partir du moment où on s'est mis d'accord et qu'on a dit qu'en 2025, on allait continuer, on préfère aller sur une année blanche. Je ne pense pas que ce soit la solution. Le gouvernement a montré sa bonne foi. Nous venons d'arriver, nous avons montré notre bonne foi. Nous avons un budget que nous n'avons pas, nous, élaboré. Nous travaillons sur base du budget que nous avons trouvé. Laissez-nous la chance. Avec le budget que nous venons d'élaborer, une fois qu'il va être approuvé par le Parlement et qu'il sera promulgué, à ce moment-là, on pourra faire mieux. Mais là, on fait avec ce qu'on a entre les mains. Mais pour l'instant, je pense qu'une certaine dose de patriotisme est importante pour ne pas laisser nos enfants à l'abandon et permettre au moins que ces enfants puissent aller à l'école.
Et la réponse des concernés ne s'est pas fait attendre. En tout cas, les enseignants membres de la synergie des syndicats de la RDC ne décollèrent pas. Ils ont décidé de poursuivre leur mouvement de grève en attendant la convocation d'un nouveau cadre de dialogue social avec les syndicats porteurs de revendications des enseignants. Ils ont donc dit non à l'appel de la première ministre lors d'une assemblée générale organisée samedi 12 octobre à Kinshasa. Plus de précisions avec Blaise Ndongala Mayanda.
Ces enseignants des écoles publiques disent tenir à leur grève tant qu'ils n'auront pas obtenu gain de cause. Ils réitèrent également les rappels au paiement d'un barème salarial digne et uniformisé, à la rationalisation de la gratuité de l'enseignement et à la valorisation de la fonction des inspecteurs et agents administratifs de l'inspection générale de l'éducation. Les porte-parole de la synergie des syndicats de la RDC a demandé au gouvernement de faire preuve de bonne volonté et d'éviter de recourir aux méthodes fortes face aux enseignants au risque d'entraver la formation des enfants. Jean Bosco Pouna.
La synergie des syndicats des enseignants de la RDC fait remarquer au gouvernement que face à la misère criante, ni les menaces de désactivation, ni les menaces d'arrestation ou appel de certains syndicats ne pourront permettre une reprise effective et sereine des activités scolaires. Dit-on, la pédagogie est une nourriture cachée.
Cette organisation syndicale a également dénoncé ce qu'il qualifie de sabotage de la gratuité de l'enseignement par certaines écoles primaires catholiques qui exigent la prise en charge des enseignants par les parents. Il y a quelques jours, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC avait saisi le ministre de la Justice pour dénoncer les menaces dont ses membres sont victimes de la part de leur chef pédagogique.
Une autre difficulté qu'endurent les enseignants nous est rapportée depuis l'Ituri, l'école primaire Mwanga Beabo, située à une dizaine de kilomètres de Bunia en territoire d'Irumu, ne sait plus assurer normalement les enseignements. Tenez, avec un effectif de plus de 700 élèves, cet établissement n'est pas en mesure d'encadrer les enfants dans les 16 salles que compte cette école. À cela s'ajoute la vulnérabilité des parents, dont nombreux sont des déplacés ou des retournés qui ont de la peine à offrir à leurs enfants le nécessaire dont ils ont besoin pour leur scolarisation. Jean-Claude Lokidile, qui a visité cette école et fait ce triste constat, nous propose ce reportage. Suivez.
Construite en terre battue à l'année 2004 par l'ONG française Atlas Logistique, l'école primaire Mwanga Beabo accueille aujourd'hui 753 élèves. Avec les 16 salles disponibles, difficile de placer tout le monde dans des conditions confortables. À vous, Prosper Somabo, le directeur adjoint de cet établissement scolaire.
Il n'y a pas de pupitre. Les bas ici, ce sont des bas qu'on avait arrangés même avec des sticks. Vraiment, il n'y a pas une bonne éducation parce que vous voyez, avec beaucoup d'effectifs,
avec le retour des personnes déplacées qui avaient fui les violences des groupes armés, certains parents continuent à solliciter des places pour inscrire leurs enfants. Conséquence, les élèves sont entassés à 50, 60, voire 70 dans une salle de classe. La solution passe par la construction des nouveaux bâtiments, comme le dit Prosper Somabo.
Il y a un problème sérieux parce qu'il y en a qui viennent sans même quelque chose à écrire, qu'on puisse nous aider à construire et pour ces enfants déplacés, qu'ils viennent en aide vraiment parce qu'il n'y a pas moyen.
C'est le même décor à l'école primaire Diango et à l'institut Mousseso, pour lesquels les autorités coutumières locales sollicitent l'intervention du gouvernement. Bounia, Jean-Claude Loki, Lille, Radio Capi.
Économie dans ce journal avec le début ce lundi de la conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures dans la province du Maniema. Les travaux se tiennent à l'université de Kindu dans son site de l'Ouama 2 à la faculté de médecine. Ces assises sont organisées par le gouvernement provincial sur initiative du gouverneur Moussa Kabouankoubi Moïse. Mais quels sont les enjeux que présente cette conférence dans le Maniema? Réponse avec Florence Kizalunga.
Le Maniema, avec ses 7 territoires, contient de l'or, du diamant, du coltan, de la cassitérite, du wolframite, du pétrole et j'en pense, affirment plusieurs experts. Cette province contient d'énormes potentialités pouvant séduire plusieurs investisseurs qui peuvent venir travailler au Maniema pour booster son économie selon les organisateurs. Cette conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures se veut très importante pour vendre cette province au monde et espérer ainsi à son développement durable. Plus de 400 participants sont attendus à cette conférence. Durant 3 jours, plusieurs thèmes en rapport avec les mines, l'énergie et les infrastructures seront abordés avec une exposition des échantillons des minerais déjà exploités dans la province du Maniema, précisent les organisateurs. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Alerte à la menace de coupure du trafic de mouvements migratoires entre Kinshasa, les provinces du Kwango, Kwilu et le Kasaï. À la base, une érosion profonde au village Kinzwanga dans la province du Kwango qui risque de couper cette partie de la nationale numéro 1. Le président du cadre de concertation provinciale de la société civile du Kwango, Symphorien Kwengo, qui tire la sonnette d'alarme, sollicite une intervention urgente du gouvernement afin d'éviter les conséquences désastreuses que peut entraîner cette catastrophe naturelle. Rien ne va plus non plus du côté du territoire de Beni dans le Nord Kivu et pour cause, l'axe routier Mbao-Kamango, long de 90 km, est devenu un casse-tête pour les usagers de la route depuis le début de cette période pluvieuse. Des bourbiers et autres érosions sur certains tronçons perturbent la circulation sur une longue distance et ce à partir du point kilomètre 30. Du coup, les véhicules en provenance de la chefferie de Watalinga éprouvent d'énormes difficultés pour évacuer les produits champêtres vers les centres de consommation. Marc Marofimbo pour plus de précisions.
L'axe routier Mbao-Kamango est dans un état de délabrement avancé. Les conducteurs des mototaxis rencontrés ce samedi matin affirment que cette route risque de disparaître des suites de ces délabrements. Les véhicules transportant des marchandises passent de 4 jours à une semaine pour arriver à destination, ajoutent ces conducteurs des motos qui sont péniblement arrivés à Beni. Ils ajoutent que l'entreprise Jocas Trading, en charge de la réhabilitation et de l'entretien de cet axe routier, n'est qu'au point kilométrique 25 sur les 90 km à réhabiliter. Toujours selon eux, Dupont Semuliki à la frontière ougandaise, il faut marcher à pied du fait que la route est impraticable pour les engins roulants comme les mototaxis. Paradoxalement, les taxes sont perçues régulièrement sur cet axe particulier. Pour cette raison, certains font un long détour, préférant apprêter l'axe Kasindi-Uganda-Nobili pour atteindre la chefferie de Watalinga. Nos efforts pour avoir la réaction des autorités ainsi que celle de l'entreprise chargée de l'entretien de la route n'ont pas abouti. Signalons que l'axe routier Mbao-Kamango est d'une importance capitale pour la desserte agricole, notamment les cacao et le bois. Il facilite également les échanges commerciaux entre la chefferie de Watalinga et l'Ouganda à partir de la ville frontalière de Nobili. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Criminalité en hausse au Kasaï oriental. Plusieurs cas ont été enregistrés la semaine dernière dans la ville de Mbujimayi. Dernier exemple en date, celui qui s'est produit jeudi dernier chez le chef de quartier Chikisha, où des hommes armés ont volé une moto avant d'emporter plusieurs biens de valeur. Le ministre provincial de l'Intérieur affirme que des stratégies ont été adoptées pour mettre fin à cette criminalité grandissante sur la ville. C'en est vraiment fini avec Mutombo Dikembe, la star de la NBA d'origine congolaise, a été inhumée samedi à Atlanta, aux États-Unis. Ici à Kinshasa, le personnel soignant, administratif et autres partenaires suivaient la projection de cette cérémonie à partir de l'hôpital Biamba-Marie Mutombo de Massina du défunt Jean-Jacques Mutombo Polondo Dikembe. Askin Zigbiatayoro était sur place, suivait son reportage.
C'est à 16h de Kinshasa qu'ont commencé les cérémonies d'inhumation de Mutombo Dikembe en direct d'Atlanta aux États-Unis. Tous les personnels soignants, administratifs et quelques partenaires rangés sous des tentes aménagées pour suivre la projection de la cérémonie de cette inhumation. Un moment d'émotion inoubliable pour l'hôpital qui a vu Rose Mutombo, l'épouse du défunt, prendre la parole.
And he said this one day,
et il m'a dit ceci,
said, Rose, you know what?
Rose,
with
tu
God,
sais,
you have to be patient.
Tu dois être patiente.
And that's what I would tell all of you.
Et c'est ce que je veux vous dire à tous.
Sometimes, when facing trial and tribulation,
lorsque tu es devant
when
des défis,
through difficult time,
lorsque tu passes par
when
des
you're
épreuves,
looking ahead, sometimes just be patient.
Alors quelquefois, sois seulement patient.
Plusieurs personnalités américaines, dont l'ancien président Bill Clinton, ont rendu l'une après l'autre des vibrants hommages à l'illustre disparu pour sa générosité incontestable, comme témoigne Dr Vital Kalonji.
Il avait encore beaucoup de projets à réaliser, puisqu'il avait de l'amour pour son prochain. Et nous sommes à même de pérenniser son œuvre pour qu'il vive dans nos cœurs à jamais.
C'est en toute intimité que le corps de Mutombo Dikembe a été mis en terre, loin des caméras.
Ici au pays, suite du naufrage du bateau Merdi du 3 octobre sur le lac Kivu, au moins 20 autres corps de victimes ont été enterrés samedi à Minova. Ces corps qui étaient gardés à la morgue de l'hôpital provincial du Nord Kivu à Goma ont été acheminés à Minova au sud Kivu dans la matinée du même samedi. Selon des sources de la société civile locale, à Minova, ces corps seront enterrés dans la dignité dans un lieu aménagé par les autorités gouvernementales à Moubimbi, un groupement de Bouzi, territoire de Calais. Les obsèques sont organisées et supervisées par le gouverneur de la province du Sud Kivu.
Actualité internationale.
La pénurie d'antivenin inquiète les populations d'Afrique du Sud. La saison des serpents a commencé en Afrique du Sud, mais l'offre d'antivenin est largement insuffisante. Environ 4000 Sud-Africains sont mordus par des serpents chaque année, mais seuls 600 d'entre eux ont accès à un traitement. Le producteur national de vaccins qui produit des antivenins a considérablement réduit sa production depuis la pandémie de COVID, ce qui entraîne une pénurie.
L'invité.
À Goma, plus de 250 présumés bandits à main armée arrêtés et au moins 200 armes déjà récupérées. C'est entre autres le bilan que dresse le maire de cette ville, chef-lieu de la province du Nord Kivu, de l'opération Safisha Mujiwa Goma, entendait nettoyer la ville de Goma qui en est maintenant à son 7e mois. Le commissaire supérieur principal Faustin Kampende Kamande est notre invité pour en parler, alors que les acteurs communautaires estiment que la ville de Goma fait toujours face à une recrudescence de l'insécurité. Le maire lui reste optimiste, suivons-le, dans cet entretien qu'il a accordé samedi 12 octobre à Bernardin Nyangi.
Mon commissaire supérieur principal, Kapen Kamande, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Depuis avril, pratiquement vers fin mars cette année, l'opération Safisha Mujiwa Goma a commencé. Aujourd'hui, c'est pour quel bilan?
Je dirais sans hésitation que le bilan de l'opération Safisha Mujiwa Goma est largement positif. Au regard des statistiques, les bandes déjà démantelées, plus ou moins 200 bandits à main armée arrêtés et déférés en prison. Et plus ou moins 200 armes déjà récupérées entre les mains de bandits à main armée. Et différents types d'armes que vous avez vu même un échantillon aujourd'hui.
Effectivement, en parlant de cet échantillon, il y a même une arme PKM que vous avez pu récupérer dans les opérations. Est-ce que cette opération de roadblock, c'est toujours dans le même cadre de Safisha Mujiwa Goma?
Oui, il y a le bouclage ciblé, il y a le bouclage en bloc, il y a les perquisitions, il y a aussi les opérations de roadblock. Ça fait partie des opérations Safisha Mujiwa Goma.
Et maintenant, c'est chaque samedi que vous appelez le journaliste, vous présentez les résultats par semaine de cette opération. Pour quelle finalité?
D'une part, c'est la dissuasion. D'autre part, c'est pour respecter le principe de redevabilité. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous avons eu? Et l'opération continue parce que la criminalité est liée même à la vie humaine. Il n'y a pas une cité idéale là où la criminalité n'existe pas.
Oui, effectivement, par rapport à ça, plusieurs fois en fait la nuit où ça tire un peu de partout, on peut dire que les armes, par exemple, que vous venez de présenter ici, seraient en cause.
Sans motivation, les gens armés, ils se plaisent. Mais lorsque nous les traquons, c'est pour apporter tant soit peu la quiétude de notre population. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. Et n'oubliez pas que la ville est encerclée. La ville est sous pression de l'ennemi. Il y a le mouvement d'armes à feu dans la ville de Goma. Et la preuve là, chaque semaine, nous récupérons les armes. Mais c'est pour autant aussi donner une interpellation directe aux différents responsables. La gestion des matériels de guerre. Comment nous devons gérer ça? D'où viennent ces armes? C'est ça le problème. Et nous n'allons pas nous fatiguer. Nous devons aller jusqu'au bout. Un jour, Goma sera sans armes.
Il y a une collaboration rapprochée entre la mairie que vous représentez et aussi la justice pour bien canaliser, par exemple, les présumés qui sont présentés. Comment ils sont orientés? Puisque ici même, parmi ceux qui sont présentés, il y en a un qui a même été à Mounzezi récemment et encore aujourd'hui, il est encore représenté. Comment vous collaborez pour que cela ne se reproduise plus?
Moi, je peux dire que c'est le combat de nous tous. Nous voulons que notre justice rende justice. Et ceux qui étaient libérés il y a 4 ou 5 mois, c'était une ancienne équipe de certains animateurs, différentes juridictions de notre justice dans la ville de Goma. À ce jour, j'ai l'impression que l'équipe actuelle, au niveau de l'auditorat militaire et au niveau de juridiction civile, le parquet, le tribunal, nous sommes en bonne collaboration et c'est cette efficacité qui fait que si vous allez aujourd'hui à Mounzenze, vous allez trouver tous les criminels arrêtés qui sont encore au niveau de la prison. Mais ce que nous demandons, notre plaidoyer, c'est décongestionner la prison. Parce que si on peut déférer ces grands criminels, têtes d'affiche, les déserteurs, les militaires de tout genre, les mauvais Ouazalènes, donc si on peut les déférer dans d'autres prisons, ça va soulager la population de Goma.
Quel est l'avenir en fait ou les perspectives par rapport à l'opération Safichamoudjou à Goma?
L'opération a été décrétée par rapport à la pesanteur de menaces. Dès que nous aurons constaté que ces menaces sont vraiment écrasées en ce moment-là, nous allons lever l'opération Safichamoudjou à Goma.
Monsieur le maire, merci.
Merci, monsieur le journaliste.
Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci à Alain Irung, à Jude Bilanda et à Billy Landry-Betou. Bonne journée à tous.